VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 17h30 temps universel, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 28 septembre 2017, Morgane Yeriek en direct de Washington. Au sommaire ce soir, violence à Uvira dans l'est de la RDC, nous ferons le point sur les affrontements entre les Maïmaï du général Yakutumba et l'armée régulière. Plus de 150 personnes tuées, 109 femmes violées par des militaires, le massacre du stade de Conakry, c'était il y a 8 ans, jour pour jour. Kenya, le parti au pouvoir tente d'amender la loi électorale suite à l'annulation du scrutin présidentiel. L'opposition dénonce un passage en force. Et puis Porto Rico, toujours dans la détresse depuis le passage de l'ouragan Maria. Trump lève les restrictions maritimes pour accélérer l'aide. Retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Blanche Sanou pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le point suite à l'attaque des Maïmaï Yakutumba en territoire d'Uvira. Les forces armées de la RDC ont délogé des assaillants dans plusieurs villages. La vie reprend peu à peu son cours normal, nous dit Ernest Mouhero, notre correspondant à Bukavu.
Une nette accalmie règne dans la cité d'Uvira depuis le début d'après-midi de ce jeudi. Tôt le matin, cette population s'est réveillée dans le coup des balles lorsque les Maïmaï Yakutumba tentaient de prendre d'assaut le pont Kalundu avec 4 pirogues motorisées pleines d'hommes armés. Selon l'administrateur du territoire d'Uvira, Milenge Matundanya, la contre-offensive de l'armée régulière a bouté les Maïmaï en dehors de la cité. Milenge confirme ce soir que tout le territoire d'Uvira jusqu'à Makobola est sous le contrôle de l'armée régulière. En début d'après-midi, midi, le véhicule de commerce coincé à Makobola depuis le dimanche 24 septembre ont repris timidement les trafics vers Uvira, les tronçons étant libérés. Le mitin de la Coalition nationale du peuple pour la souveraineté du Congo opère sur plusieurs axes. Toute la presqu'île d'Ubuari et d'autres localités telles que Nemba, Kazimia sont contrôlées par les éléments Maïmaï, affirme la société civile locale. De Bukavu au sud Kivu, Ernest Mouhero, VOA Afrique.
8 ans, jour pour jour, après le massacre du stade de Conakry. Et des dizaines de personnes, dont de nombreuses femmes, se sont rassemblées aujourd'hui dans la capitale guinéenne, au siège de l'AVIPA, une association de victimes, a constaté un journaliste de l'AFP. Souvenez-vous, le 28 septembre 2009, au moins 157 personnes avaient été tuées et 109 femmes violées par des militaires dans un stade où étaient rassemblés des milliers d'opposants au chef de la junte de l'époque, Moussa Dadis Camara, selon une commission d'enquête de l'ONU. Nous y consacrerons un dossier en seconde partie d'émission. Burkina Faso, un poste de gendarmerie a été attaqué mercredi soir par des individus armés non identifiés. L'incident s'est produit à Toeni, dans l'ouest du pays, frontalier au Mali. C'est ce que rapporte l'AFP, citant les autorités. Aucune victime n'a pour l'instant été signalée. Nouveau raid de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. 3 personnes ont été tuées et des villages entiers ont été brûlés hier dans l'état de Borno. Les insurgés islamistes sont arrivés en grand nombre sur des camions et des motos et ont attaqué les villages de Goram, Lingis et Ajidari. C'est ce qu'ont indiqué les autorités. Au Nigeria toujours, le gouverneur de l'État d'Ekiti annonce son intention d'être candidat à l'élection présidentielle de 2019. Peter Ayodele Fayose est donc le premier à se lancer dans la course à la magistrature suprême. Au Kenya, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations pacifiques. Elle s'insurge contre la volonté du parti au pouvoir de modifier en urgence la loi électorale en vue de la présidentielle du 26 octobre. Un scrutin ordonné donnée par la Cour suprême du pays après l'annulation de la précédente élection. Les précisions de Jacques Aristide.
Cette nouvelle polémique est une étape de plus dans le dialogue de sourds entre les politiciens des deux bords. Le parti au pouvoir du président Uhuru Kenyatta a enclenché ce jeudi un processus législatif accéléré pour amender la loi électorale afin d'en gommer ce qu'il appelle les lacunes. L'opposition estime que ces modifications reviendraient à rendre légales les irrégularités et illégalités soulevées par la Cour suprême dans son jugement le 1er septembre dernier. Pour Raila Odinga, il s'agit d'une attaque en règle contre la démocratie et la constitution du pays. Il a appelé à des manifestations dans l'ensemble du pays, réitérant un précédent appel qui avait été peu suivi. La démarche a conduit l'opposition à claquer la porte des pourparlers en cours avec la commission électorale en vue d'aplanir les différends entre les camps rivaux et de préparer la nouvelle présidentielle. Des responsables religieux se sont également exprimés publiquement pour condamner le projet du parti au pouvoir.
Crash au Tchad, un Mirage 2000 qui s'est écrasé au décollage sur la base de N'Djamena. L'équipe a alors dû s'éjecter, le pilote est indemne, mais le navigateur a été blessé à une jambe d'après l'armée de l'air. Et retour sur la mort de deux casques bleus néerlandais l'an dernier dans le nord-ouest du Mali. Des enquêteurs néerlandais dénoncent de sérieux manquements qui ont mené à l'explosion accidentelle d'un mortier lors d'un exercice à Kidal. Le bureau d'enquête pour la sécurité a découvert que les militaires utilisaient des stocks de vieux obus achetés en 2006 dans l'urgence avec l'aide du département américain de la défense pour la mission néerlandaise en Afghanistan sous l'égide de l'ONU. Le ministère néerlandais de la Défense a omis de mener ses procédures et contrôles, supposant que l'armée américaine utilisait elle-même les munitions et les avait déjà suffisamment testées, indique l'organisation.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, les enquêtes sur une possible influence russe dans l'élection présidentielle de 2016 se poursuivent. Aujourd'hui, c'est au tour des représentants de Twitter d'être entendus par les membres des commissions sur les renseignements du Sénat et de la Chambre. Nathalie Barge.
Les sessions à huis clos suivent des séances d'information similaires début septembre avec Facebook, qui a accepté de fournir aux législateurs 3000 annonces liées à la Russie, impliquant des questions sociales et politiques. Les commissions examinent la propagation de fausses nouvelles et si quelqu'un aux États-Unis a aidé à cibler certains utilisateurs. Dans le cas de Twitter, cela inclut l'examen des comptes de bots mis en place pour diffuser rapidement et automatiquement des informations. Twitter respecte profondément l'intégrité du processus d'élection, pierre angulaire de toutes les démocraties, et continuera à renforcer sa plateforme contre les robots et autres formes de manipulation qui enfreignent nos conditions d'utilisation, a déclaré le géant californien. Les commissions de renseignement de la Chambre et du Sénat prévoient des audiences publiques et ont invité Facebook, Twitter et l'entreprise mère de Google, Alphabet, à comparaître en octobre et début novembre.
Un sujet sur lequel nous reviendrons en partie magazine. Toujours ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump a assoupli des restrictions en matière de transport maritime pour accélérer l'aide vers Porto Rico, ravagée la semaine dernière par l'ouragan Maria. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'assouplissement des restrictions entre immédiatement en vigueur, selon Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif américain. Cet allègement doit permettre d'acheminer l'aide à Porto Rico, qui manque d'eau potable, d'électricité et de carburant. Les opérations de déblaiement sont également lentes à se mettre en place. Depuis un siècle, une loi requiert que les marchandises transportées entre ports américains le soient sur des navires américains exploités par un opérateur américain. L'objectif est d'empêcher les navires étrangers d'acheminer de l'aide aux États-Unis. Donald Trump doit se rendre mardi prochain à Porto Rico. Le président est accusé de considérer les 3,4 millions d'habitants de l'île comme des citoyens de seconde zone, les Portoricains ayant la nationalité américaine mais pas le droit de vote. Selon ses détracteurs, l'aide fédérale a été rapide pour le Texas et la Floride, touchés par les ouragans Harvey et Irma fin août et début septembre.
Les noms d'oiseaux continuent de fuser entre Pyongyang et Washington. Cette fois-ci, c'est la Corée du Nord qui traite le président américain de « vieux fou ». Pyongyang répond ainsi à Donald Trump d'avoir torturé l'étudiant américain Otto Warmbier, mort en juin, peu après son rapatriement de Corée du Nord dans le coma. Les États-Unis vont jusqu'à utiliser une personne morte pour leur campagne de conspiration pour alimenter la pression internationale sur la Corée, ajoute la Corée du Nord. Les forces irakiennes, pointées du doigt par Human Rights Watch, l'organisation accuse les unités paramilitaires combattant le groupe État islamique d'avoir commis des abus contre des djihadistes présumés. Les forces militaires irakiennes font elles-mêmes la loi, jouant le rôle de juge, de jury et de bureau, affirme Human Rights Watch, qui réclame une enquête des autorités. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est de la Libye, en visite à Paris. Opposant au gouvernement d'entente nationale basé à Tripoli, il rencontre aujourd'hui le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Sachez enfin qu'une épidémie de peste est en cours à Madagascar. 19 personnes sont décédées depuis 2 mois, selon le ministère de la Santé. Au total, 104 cas suspects ont été enregistrés. Il faut dire que la maladie réapparaît presque chaque année depuis 1980. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La minute éco, c'est donc l'actualité économique en Afrique avec Blanche Sanou.
La compagnie Ivoire Angel a lancé un fonds d'investissement en Côte d'Ivoire, une initiative visant à financer les projets de start-up, a expliqué lors d'une cérémonie à la Chambre d'industrie et de commerce de Côte d'Ivoire à Abidjan, le fondateur de la structure, l'homme d'affaires canadien Jean-Marc Larouche. Son équipe, a-t-il précisé, évaluera les projets d'affaires innovants et à fort potentiel commercial dans tous les secteurs et les financera à hauteur de 5 à 250 millions de francs CFA. Au Sénégal, le prix du kilogramme de farine de blé est resté stable selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques. En juillet 2017, cette denrée alimentaire s'est échangée à 413 francs CFA. Les prévisions de septembre 2017 du département américain de l'agriculture tablent sur une offre mondiale de blé à 1,7 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018. Des représentants d'écosystèmes aéronautiques marocains vont à la rencontre du marché japonais. Une rencontre se tient à Nagoya, au Japon, entre les acteurs du secteur aéronautique du 26 au 28 septembre courant. Selon APA News, cet événement est une occasion majeure pour la délégation marocaine de rencontrer une partie des fournisseurs de Boeing pour les inciter à venir s'installer au Maroc, mais aussi de créer des partenariats stratégiques avec les acteurs clés de l'industrie aéronautique.
Et on enchaîne sur les sports à mes côtés. Nicolas Pinault, bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Le Bayern Munich limoge son entraîneur.
La débâcle 3-0 contre le Paris Saint-Germain a précipité sa chute. Carlo Ancelotti, l'entraîneur aux 3 Ligues des Champions, a été limogé ce jeudi par le Bayern Munich après une saison et 2 mois à son poste. Le Bayern est actuellement 3e de la Bundesliga à 3 points du Dortmund. En Ligue des Champions, il compte une victoire contre Anderlecht et une défaite donc face à Paris. C'est l'adjoint de l'international, l'ancien international français Willy Sagnol qui prend la relève.
La Ligue Europa ce soir ?
Eh oui, quelques matchs, notamment Astana contre le Slavia Prague. Le match est terminé, match nul, un but partout. Et puis c'est la mi-temps sur d'autres pelouses. Arsenal qui pour le moment s'impose 3 buts à 1 face au Baté Borisov. A noter le doublé de Théo Walcott. Marseille-Salzbourg 0-0. Saint-Pétersbourg face à la Real Sociedad. Une victoire pour le moment 2-0 à la mi-temps des Russes. Et puis à suivre tout à l'heure, le Maccabi Tel Aviv contre Villarreal. Le Partizan de Belgrade contre le Dynamo Kiev, ou encore Braga contre l'Istanbul Başakşehir, un match a priori facile pour le Milan AC face au modeste croate de Rijeka, ou encore l'AEK Athènes face à l'Austria de Vienne. Enfin, en France, Lyon qui accueille l'Atalanta Bergame.
Et report du match entre Supersport United et le club africain.
Et oui, la rencontre des demi-finales de la Coupe des Confédérations, initialement prévue ce samedi au stade Lucas Masterpieces Moripe de Pretoria, se disputera finalement dimanche au même lieu et à la même heure. En fait, Morgane, cette reprogrammation fait suite à des problèmes d'ordre technique, tout simplement puisque le club tunisien est arrivé plus tard que prévu en Afrique du Sud.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guirguec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. La Centrafrique a connu un regain de violence depuis plusieurs mois. Que faire pour mettre fin à cette situation et aux violences qui sévissent dans ce pays? Dans un rapport rendu public, le Centre d'analyse internationale International Crisis Group propose entre autres de s'attaquer aux finances des groupes armés qui se battent pour le contrôle des ressources naturelles. Pour analyse, Yacouba Ouedraogo a joint Thibault Le Sieur, consultant senior et analyste pour l'Afrique centrale à International Crisis Group.
L'idée phare du rapport, c'est de dire qu'en effet, il y a une violence qui augmente de manière très sensible et très rapide depuis la fin de l'année 2016 et que malheureusement, face à la violence des groupes armés, il y a une réponse internationale et nationale qui est insuffisante.
Quelles sont les causes de ce regain de violence-là, selon votre rapport?
Déjà, il y a le fait que les groupes armés soient toujours très bien armés et contrôlent à peu près les trois quarts du territoire centrafricain, avec en toile de fond cette idée de contrôler les ressources, notamment les ressources minières, mais aussi le café, le bétail. Et puis, il y a des causes qui sont beaucoup plus identitaires pour beaucoup de Centrafricains, par exemple, que les musulmans sont étrangers puisqu'associés à la SELECA.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ces violences-là?
Il faut déjà établir un rapport de force avec les groupes rebelles. Pour l'instant, la MINUSCA, qui est composée de 12 000 hommes, n'arrive pas à être dissuasive vis-à-vis de ces groupes armés. Et donc, il n'y a pas de rapport de force institué qui les pousse à négocier.
Vous avez fait cas de la volonté des groupes armés de contrôler les ressources naturelles. Qu'en est-il exactement?
Sur toute la partie est du pays, on voit des groupes armés qui contrôlent à la fois les zones minières, mais qui contrôlent aussi différents circuits économiques. Ça peut être le café, dans d'autres endroits c'est le bétail. Le bétail est une ressource importante pour les groupes armés. Et donc, ce sont des trafics qui existent depuis maintenant 10-15 ans, qui existaient bien avant la crise, et qui permettent à ces groupes armés de se financer et de recruter des jeunes localement.
Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut assécher les circuits de financement des groupes armés, c'est-à-dire lutter contre les trafics qui est rémunérateur des groupes armés, par exemple en déployant des casques bleus sur les sites miniers ces groupes armés se servent, ou en essayant de contrôler un petit peu les circuits d'écoulement du bétail, par exemple, qui sont volés par les milices locales.
Le président Faustin Archange Touadéra et des autorités onusiennes demandent une augmentation du nombre de casques bleus. Cela pourrait-il, selon vous, être suffisant pour arrêter les violences?
Ce ne sera pas suffisant. Alors, c'est important, en effet, d'avoir un renforcement capacitaire, donc à la fois en hommes et en matériel. Mais le plus important, c'est d'avoir des contingents qui soient capables d'exercer une pression sur les groupes armés. Donc, il faut à la fois plus de contingents, mais aussi des contingents qu'on a choisis, dont on sait qu'ils ont des règles d'engagement qui sont plus importantes.
Que suggérez-vous politiquement aux autorités centrafricaines?
Elles ne peuvent pas lutter contre les groupes d'armées, malheureusement, puisqu'il n'y a pas d'armée centrafricaine. Donc il faut qu'elles travaillent sur le domaine de la réconciliation. Ça passe par des mesures très symboliques. Il faut que le président Touadéra aille un peu à l'encontre de sa base électorale, en répétant par exemple que les musulmans sont centrafricains, qu'ils ne sont pas étrangers, et par exemple en organisant des programmes de formation pour des populations qui viennent de tout le pays, pour constituer une nouvelle élite administrative.
Thibault Le Sieur, joint à Bruxelles.
Et Kabadou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, le point sur l'actualité migratoire de l'administration Trump. En janvier, Donald Trump décidait d'interdire le territoire américain aux ressortissants de 6 États musulmans afin de prévenir d'éventuels risques terroristes. Le Tchad, la Corée du Nord et le Venezuela viennent d'être ajoutés à cette liste. Le Soudan vient d'en sortir. Comment interpréter cette mesure? Comment sortir de cette liste noire? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h en temps universel.
8 ans, jour pour jour, après le massacre du stade de Conakry. Le 28 septembre 2009, au moins 150 personnes avaient été tuées et 109 femmes violées par des militaires dans un stade de la capitale guinéenne où étaient rassemblés des milliers d'opposants au chef de la junte de l'époque, Moussa Dadis Camara. À ce jour, toujours pas de procès. Les victimes s'impatientent et demandent sa tenue dans les meilleurs délais. Une journée de commémoration a été organisée aujourd'hui à Conakry. Sur place, Zakaria Camara.
C'était un dîner.
Triste anniversaire et surtout une reconstitution des faits difficile à regarder. Une scène des viols replonge les victimes dans la douleur. Certaines inconsolables. 8 ans après les massacres, l'attente semble longue pour les victimes.
Moi, j'étais victime, j'étais dans le stade, tout ce qui s'est passé, je ne peux pas tout citer ici, mais franchement, ça m'empêche de dormir. 8 ans de retard, 8 ans de s'endormir, 8 ans partout, on ne peut pas se circuler comme on veut. On veut la liberté, on veut la justice, tout ce qu'on demande.
L'association des victimes, parents et amis s'indigne et menace de battre le pavé, mais pas seulement, si elle n'obtient pas de la justice guinéenne la date du procès. Asmaou Diallo, présidente.
L'ONG Avipa serait dans l'obligation de saisir la Cour de justice de la CEDEAO afin que celle-ci interpelle l'État guinéen à faire réparation vis-à-vis des victimes du 28 septembre 2009.
La justice guinéenne a promis de boucler le travail de poule des juges avant le 31 octobre prochain. Elle avait annoncé fin septembre pour la fin de l'instruction. Précision de Malal Diallo de l'OGDH.
La commission rogatoire internationale avait été envoyée en France pour entendre M. Sékouba Konaté, qui était à l'époque des faits, ministre de la Défense, et de surcroît, le monsieur qui, par un jeu médiatique, avait déclaré publiquement qu'il a déposé une liste de complices au niveau de la Cour pénale internationale.
La Fédération internationale des droits de l'homme a exprimé sa solidarité avec les victimes guinéennes. Elle appelle à plus de sérénité. Paul Sapou, secrétaire général adjoint de la Fédération internationale des droits de l'homme.
S'il vous plaît, commençons par nous serrer davantage les coudes et éviter que nous puissions poser des actes qui pourraient nourrir d'autres actes qui relèvent de manœuvres dilatoires.
Pour certaines victimes, l'urgence est sanitaire.
Avec mon tête, c'est qu'on a battu avec le fusil. Mon tête, ça tourne, chaque fois, ça tombe. Tout le monde connaît ça. Donc, ils sont parlé à faire de justice. Avant justice, moi, je demande le Zang nous aide à avoir médicaments d'abord.
Plus de 150 manifestants avaient été tués à Conakry et une centaine de femmes violées selon une enquête des Nations Unies. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
En Angola, le tout nouveau président, João Lourenço, a prêté serment cette semaine devant un parterre de chefs d'État africains à Luanda. Il remplace José Eduardo dos Santos après 38 ans de règne sans partage. S'agit-il d'un vrai changement dans la conduite des affaires du pays? Idriss Fall a joint à Luanda le député Raoul Danda, vice-président de l'UNITA, principal parti d'opposition angolais.
Pour moi, quand il y a continuité, il n'y a plus changement. Parce que s'il faut changer, on ne continue pas à faire la même chose. Je ne trouve pas que João Lourenço puisse avoir la force suffisante pour changer quoi que ce soit. D'abord, il a été indiqué par Dos Santos. Étant indiqué par Dos Santos, il doit obéissance à Dos Santos. En secondo, lui est parti d'un système, le même système qui a pratiqué la corruption pendant toutes ces années, le même système qui a très mal géré le pays. Lui était secrétaire général du MPLA à l'époque, la deuxième personne la plus importante de leur parti et par conséquent du pays aussi. Dos Santos a fait tout pour avoir des gens de sa confiance dans la direction de l'armée, des services de sécurité, de la police.
Et Dos Santos lui-même est resté à la tête du MPLA, non?
Absolument, il est resté à la tête du MPLA. Au Parlement, la majorité parlementaire n'appartient pas à Lourenço. La majorité appartient au MPLA, donc à Dos Santos. Si, par exemple, Lourenço ne faisait pas ce que Dos Santos voulait, Dos Santos allait prendre des mesures parce que qui soutient Lourenço sur le parti et qui est à la tête du parti, c'est Dos Santos. À moins que, dans un avenir très proche, Dos Santos puisse lâcher le parti et remettre à Lourenço.
Il y a les enfants de Dos Santos aussi qui sont très présents, notamment Isabel Dos Santos et son frère, non?
Oui, non seulement les deux, presque tous les frères et sœurs sont là. Alors, est-ce que Dos Santos va accepter que, compte tenu le combat à la corruption, Lourenço puisse bouger les enfants de Dos Santos? Certainement pas.
D'autant que l'économie ne va pas très bien parce que le prix du pétrole a baissé de manière dramatique. Quelle est sa marge de manœuvre pour lutter contre la pauvreté et la corruption?
Il est vrai qu'il a une situation économique grave au pays. Il est aussi vrai que la baisse du prix du baril du pétrole a eu un impact négatif. Mais le plus grand impact, c'est la corruption, c'est le vol. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réserve, au moins
trois ou quatre budgets de l'État. Mais l'argent est complètement disparu. L'argent s'est volatilisé comme ça. Alors, dans un pays où les vols se font comme ça, tout le monde vole, tout le monde prend des trucs et tout ça, bon, comment est-il possible qu'on puisse redresser cette économie? Est-ce qu'on est en présence de Gorbatchev? Est-ce qu'on est en présence d'un Frédéric de Clercq comme en Afrique du Sud? Bon, je ne sais pas, voyons voir.
Voilà, c'était le député Raoul Danda, vice-président de l'UNITA en Angola.
Salut, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous inviter à participer à l'émission interactive À votre avis, à 18h temps universel ce jeudi sur VOA Afrique. 8 ans après le massacre du 28 septembre en Guinée, toujours pas de procès. Les enquêtes piétinent, toujours aucune comparution devant le tribunal. Peut-on parler d'impunité dans ce cas particulier? Quels progrès ont été réalisés dans la lutte contre l'impunité dans vos pays respectifs? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
Le Congrès américain a appelé Facebook, Twitter et Google à témoigner dans le cadre de l'enquête sur une possible influence russe dans la dernière présidentielle américaine. L'interrogation qui est notamment posée depuis de longs mois est de savoir si les services en ligne proposés par ces géants américains ont pu servir à une campagne d'influence russe pendant la campagne présidentielle ici aux États-Unis. Pourra-t-on enfin avoir des éléments de réponse? C'est la première question de Jacques Aristide à Michael Shurkin, politologue à la RAND Corporation.
Oui et non. Oui, je crois qu'on va avoir des éléments de réponse. Mais non, dans le sens que ce n'est pas important. Quoi qu'il en soit, les Russes ont réussi à avoir l'effet qu'on désirait. C'est-à-dire qu'on a moins de confiance dans les médias, on a moins de confiance en ce qu'ils disent les médias. On a miné la confiance en donnant à tous une raison pour être encore plus soutenus de l'autre côté. Même si Facebook, Twitter, ils sont très transparents, même s'ils dévoient toutes les vérités, et même si ces vérités enfin démontrent qu'il n'y avait rien d'important qui s'est passé, on va toujours garder ce sentiment que les Russes, ils ont influencé les choses. Il y a toujours cette histoire de fake news. Et aussi, il faut dire que ce serait impossible de savoir si Google, Facebook et les autres s'ils disent la vérité. Ça, c'est notre problème. On ne peut pas les vérifier.
Facebook est particulièrement concerné par cette enquête. Son fondateur, Mark Zuckerberg, admet avoir sous-estimé l'impact politique des fake news diffusées sur sa plateforme avant le scrutin du 8 novembre dernier. Faut-il s'attendre à d'importants changements au niveau des médias sociaux?
Je ne crois pas que Facebook va faire quoi que ce soit. Il n'y a pas vraiment les instruments, les moyens pour vraiment trier entre les fake news et les actualités vraies. C'est très, très, très difficile et ça devient de plus en plus difficile. D'abord, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les mécanismes, mais aussi parce que, bon, ça n'est pas dans leur intérêt. Ils s'intéressent à faire des profits. C'est un business et c'est normal. Et même aujourd'hui, sur Facebook, j'ai vu un article qui était mis sur Internet par un média qui n'est pas en général connu comme les fake news. Mais en lisant l'article, j'ai pu voir que les titres ne correspondaient pas du tout de contenu. Et en fait, le contenu était des fake news. Et il n'y a pas un moyen pour Facebook de trier entre les fake news comme ça. Tout ce n'est pas noir et blanc.
Mais le rôle des médias sociaux est vu différemment par les partisans des deux grands partis politiques américains, le Parti démocrate et le Parti républicain, n'est-ce pas?
Oui. Tous les deux côtés accusent l'autre d'être coupable de la même chose. Et c'est très difficile à ce point-là d'essayer de faire un trait d'union, de faire que les deux côtés sont d'accord. Et même d'accord sur les faits. Et ça, ça fait très peur. Les faits, les chiffres, les choses qui devraient être hors de discussion, les choses qui ne se donnent pas au débat, maintenant, tout se discute. Je ne sais pas comment on va faire pour corriger ce problème.
Voilà, c'était Michael Shurkin, politologue à la RAND Corporation, joint à Washington. Voilà, c'est la fin de cette édition. Ainsi va le monde aujourd'hui.